Coucou, c'est Victor. Cet épisode a été produit grâce à vos dons. Comme un poisson dans l'eau est un podcast indépendant et sans publicité. Alors si vous voulez qu'il continue à exister, et que vous avez les moyens bien sûr, s'il vous plaît, abonnez-vous en suivant le lien dans la description. Un grand merci à toutes les personnes qui le soutiennent déjà et lui permettent de rester accessible et gratuit pour tous.
Au Brésil, on a 60% de la population qui est en situation d'insécurité alimentaire. Si on n'arrive pas à changer ça, comment on pourrait s'attendre à ce que les gens deviennent antispécistes? Si on ne peut pas choisir ce qu'on mange, on n'a pas accès à la nourriture. Donc le MST n'est pas antispéciste, mais il se bat pour un monde où les bases matérielles pour construire la lutte antispéciste seront là. Parce que pour l'instant, on n'a rien. On n'a rien.
Épisode 25, deuxième partie. Salut, moi c'est Victor Durand-Lepeuch, et vous écoutez un entretien de Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. Sandra Guimaraes a une expérience très riche de construction de collectifs et d'alliances dans plusieurs contextes différents car elle a vécu dans plusieurs pays. Elle ne cherche pas tant à convertir chaque individu au véganisme là où elle milite, mais bien plutôt à construire concrètement les conditions de possibilité d'un monde antispéciste, notamment en apportant sa solidarité à d'autres collectifs qui luttent contre les systèmes qui bénéficient de l'élevage et qui empêchent tout changement pour protéger leurs intérêts. C'est sur cette approche que j'ai voulu l'interroger dans cette partie, car je pense qu'on a beaucoup à en apprendre d'un point de vue stratégique. Il faut voir que le résultat finalement de cette situation politique particulière au Brésil fait qu'il y a une forme de convergence d'intérêts qui appelle à une convergence des luttes presque entre les luttes pour les territoires indigènes, les luttes écologistes, les luttes antispécistes, les luttes pour les droits d'accès à la terre des paysans sans terre. En fait, tout va dans le même sens contre cette énorme machine qui opprime tout le monde.
Exactement. Et c'est pour ça qu'on a pu au Brésil avoir des alliances avec des mouvements sociaux qui ne sont pas antispécistes à la base, comme le MST par exemple.
Alors parlons-en peut-être justement, vous faites partie d'un collectif, d'une fédération en fait d'associations qui s'appelle LOUV. C'était en fait, ça s'est créé, dites-moi si je dis une bêtise, dans le contexte justement de l'élection présidentielle de 2018 où risquait d'être élu Bolsonaro, et il l'a effectivement été au final. Et c'est dans ce contexte qu'a été créé LOUV, l'Union Végane d'Activisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est LOUV?
Oui, c'est tout à fait ça. On a été créé en 2018 entre le premier et le deuxième tour des élections. Et je pense que c'est le seul cas que je connais d'un réseau de collectifs antispécistes qui a été créé pour combattre le fascisme. Mais bon, ça montre à quel point la lutte chez nous est intersectionnelle. Et comment, pour nous, c'est évident. Si on est antispéciste, évidemment qu'on va combattre le fascisme. Évidemment qu'on va se placer du côté des peuples indigènes. Donc LOUV a été créé par quelques militants, militantes antispécistes qui étaient déjà engagés sur plusieurs fronts, qui militaient déjà sur plusieurs luttes. Et ce qu'on a vu, c'était un peu, je pense, c'est double. Déjà, le désespoir d'imaginer que Bolsonaro pouvait être élu, malheureusement, il a été élu. Avec ce discours-là de élevage plus, libérer la chasse, armer les citoyens, citoyennes, pas de terre démarquée pour les indigènes. Donc pour nous, c'était inimaginable.
Il se faisait même appeler fièrement, il s'est lui-même donné le surnom de capitaine tronçonneuse. Mm-hmm. Donc vraiment pour dire que son projet était la déforestation, était la colonisation. C'était écrit, c'était texto, c'était dans son discours.
Et il faisait une petite arme avec c'était le signe pour se dire bonjour entre bolsonaristes, entre soutien de Bolsonaro, et sur beaucoup de photos, tu le voyais aussi faire un geste qui fait l'arme avec les doigts en fait, le pouce et l'index. Et donc voilà, 2018, on était désespérés. Moi, je venais de finir une tournée politique pour rencontrer des personnes antispécistes dans tout le pays qui étaient aussi désespérées que nous et qui se sentaient aussi seules et isolées. À l'époque, il y avait déjà des ONG antispécistes au Brésil, des grandes, même internationales, et on peut en parler aussi du colonialisme, même dans les ONG antispécistes, qui arrivent des fois, des ONG européennes ou états-uniennes qui arrivent avec une vision vraiment de c'est ça le militantisme vegan, c'est ça le véganisme, il faut qu'on fasse ça d'une façon des fois raciste, coloniale, vraiment. Mais bon, ces personnes que j'ai rencontrées dans cette grande tournée politique disaient, je me sens pas représentée par ces les ONG. Le véganisme était en train de devenir un truc un peu cool sur Instagram, mais aussi associé à une élite blanche et aisée. Un truc de ville.
Puis un lifestyle dépolitisé.
Oui, tout à fait. C'était pile à ce moment-là où le truc était de poster des photos de son assiette sur Instagram et tout. Et nous, qui en fait, ces personnes-là, ce groupe qui a créé Louvre, on était déjà politisées et militantes avant de devenir antispécistes même. Donc pour moi, par exemple, la lutte antispéciste était juste l'extension logique de mon engagement politique. Donc moi j'étais déjà dans plusieurs luttes, sur plusieurs luttes à ce moment-là, c'était juste, voilà, donc j'ai compris toute la domination, les systèmes de domination entre humaines. Ok, moi il y avait un point, un angle mort, c'était la domination des humains sur le non-humain, donc c'était juste une extension logique. Et bon, donc nous, on était un peu désespérés, on se voyait pas trop dans ces ONG qui arrivaient et qui dictaient une sorte de militantisme qu'ils appelaient même pas militantisme, qu'ils appellent activisme. Moi, je fais une distinction entre militantisme et activisme.
C'est quoi la distinction que vous tracez ?
Je sais pas si ça fait sens ici, en France, mais en tout cas, au Brésil, dans ma lutte là-bas, une personne militante, c'est une personne qui est vraiment engagée. La lutte est pour la vie. Et qui comprend la lutte comme quelque chose de plus global et qui va aller sur plusieurs fronts. Tandis que activisme, pour nous, c'est plutôt quelque chose de précis. C'est pas forcément péjoratif, mais c'est plus, on va être activiste zéro déchet. Enfin, je donne toujours cet exemple. Ok, j'ai une petite anecdote qui montre exactement, pour moi, ce que c'est la différence entre militante, une militante et une activiste. Au début du Covid, enfin du premier confinement, on a créé justement Aubervilliers, où j'étais avec d'autres camarades, la Brigade de Solidarité Populaire d'Aubervilliers, maintenant Aubervilliers-Pantin. Et ces Brigades de Solidarité Populaire sont nées en Italie dans un mouvement antifasciste. C'était des militantes antifascistes à la base qui ont créé des brigades justement pour aller porter la solidarité à ce moment de crise avec le Covid. Et d'autres brigades se sont formés partout en Europe, dont en France aussi, et donc à Aubervilliers. Et je me souviens, on faisait des permanences, quelqu'un nous avait prêté un café, et on faisait des permanences où on récoltait des dons alimentaires qu'on allait ensuite distribuer, ou soit cuisiner, soit distribuer tel quel, à des familles précaires ou à des personnes migrantes qui étaient à la rue. Et donc on était en train de faire ça, et puis il y a une femme qui arrive, qui avait l'air assez, et pas aisée, mais bon, classe moyenne, et elle me demande ce que je suis en train de faire, et j'explique, je dis voilà, on va distribuer, on cuisine aussi des repas qu'on distribue ensuite aux migrantes, aux personnes migrantes qui sont aux exilés, qui sont à la rue. Et donc cette femme me regarde et elle dit « Ah, c'est chouette ce que vous faites, mais bon, vous utilisez des assiettes jetables pour les distributions et moi je suis zéro déchet, alors ça va pas le faire. » Donc pour moi ça c'est vraiment, bon c'est un peu, cette femme était un peu en extrême, mais ça c'est une activiste pour moi. Elle a choisi sa cause, le zéro déchet, et du coup ça devient une sorte d'œillère en fait qu'elle se met et toutes les autres causes passent après. C'est ne pas comprendre l'interconnexion entre toutes les luttes. Donc pour moi, c'est plutôt ça la différence. Mais peut-être qu'ici, je pense qu'il y a des activistes sincères qui sont aussi engagés sur plusieurs luttes. Je préfère le mot militante.
D'accord.
Même si ça, en France, peut-être que les gens vont penser plutôt parti politique, militant, tout syndicat. Mais moi, c'est un engagement pour la vie, le militantisme et ça... C'est pas que aussi l'activisme, tu fais ton action activiste, après tu rentres chez toi. Moi, je suis militante. Quand je rentre chez moi, quand je me lève, quand je pense à ça, je pense à la lutte. Ça veut pas dire que c'est un truc qui pèse, hein, du tout. Des fois, j'aimerais que les gens comprennent un peu aussi que le militantisme, c'est pas du sacrifice. C'est aussi une énorme source de joie. Je pense que les moments les plus heureux de ma vie, je les ai vécus dans la lutte. C'était pendant que je construisais cette lutte avec d'autres camarades. Donc, c'est aussi une source de joie. Mais donc, retour au Brésil, la création de Louvre. Donc, on était des militantes antispécistes qui se sentaient seules, bah, désorganisées, ce sera le mot. Et ensuite, Bolsonaro, la menace Bolsonaro. Donc, on s'est créé d'abord dans ma région, le Nord-Est. Louvre est née dans la ville de Recife. C'est une des plus grandes villes du Nord-Est et du Brésil. Et on a commencé tout de suite à faire des actions pour conscientiser le peuple de la menace Bolsonaro. En fait, c'était notre première action. en tant que collectif antispéciste.
Ah oui.
C'était des actions de conscientisation. On allait dans la rue discuter avec les gens. Les camarades faisaient même des gâteaux et du café. Et on mettait une table dans les places, à la sortie du métro, dans les arrêts de bus, pour discuter
pour
avec
parler.
Les gens, pour parler avec les personnes. Et pour dire, mais vous vous rendez compte, regarde. Bon. Malheureusement, Bolsonaro a été élu, mais Lou va continuer. L'année d'après, 2019, on a fait notre première rencontre nationale. Aussi à Recife.
Parce qu'il faut dire que l'OUF, c'est en fait une fédération de plusieurs associations et collectifs,
oui,
c'est ça?
Oui, j'appellerais ça plutôt un réseau de collectifs.
D'accord.
C'est un réseau. Donc nous, on était un collectif à la base et maintenant on fédère des collectifs, mais on est un réseau.
Ok.
Et en ce moment, il y a une quarantaine de collectifs qui sont associés à l'OUF, fédérés, comme tu veux, et qui sont sur tout le territoire brésilien. Donc on a un collectif, des collectifs en Amazonie, dans la région amazonienne, jusqu'au sud, à Porto Alegre, la dernière capitale du Brésil. Et plus ou moins actifs, c'est très chouette, parce que tu as des collectifs, par exemple, des étudiants, étudiantes vétérinaires à la fac, tu as un collectif des étudiants, étudiantes en nutrition, mais tu as aussi en Amazonie un collectif de personnes qui travaillent directement avec la protection de l'environnement, comme tu as des collectifs juste des personnes, dont des personnes sans terre aussi, des collectifs noirs. Il y a plusieurs sortes de formats de collectifs. Mmh. On a un collectif dans ma ville, trop chouette, c'est un collectif vegan féministe qui fait de la distribution alimentaire pour les personnes à la rue, toujours de la nourriture végétale. On a des collectifs qui sont en soutien aux occupations urbaines, donc aux occupations. Donc le MST a aussi une sorte de branche urbaine, le MTST, le mouvement de travailleurs sans toit. C'est pas lié au MST, mais ça sera l'équivalent du MST pour les villes, qui leur projet politique, c'est de justement, là, c'est leur lutte, leur combat, c'est l'accès au logement. Donc, elles vont occuper des bâtiments vides.
C'est plus repartager les terres, mais c'est repartager les immeubles ou les logements qui ne sont pas utilisés,
oui,
dans les
le
villes.
MTST. Et donc, ils font plusieurs occupations et ils ont des cuisines solidaires, un peu. Dès qu'ils ont une occupation, ils commencent tout de suite à faire un potager. Ils ont une cuisine solidaire où ils préparent des repas gratuits. Et on a des collectifs qui viennent en soutien à ces cuisines-là. Qui est en soutien à ses occupations. Il y a un autre collectif aussi qui peut amener de la nourriture pour les crèches dans les occupations, qui va garantir en fait la nourriture, qui va assurer la nourriture des enfants. Donc on a des collectifs qui sont vraiment polyformes. Et dès le départ, l'idée de l'OUV était ça. En fait, on s'est dit, qu'est-ce qu'on n'aime pas dans les ONG, dans l'approche des ONG classiques, c'est qu'on a une vision, on a des stratégies, et ensuite on l'impose de haut en bas, c'est vraiment hiérarchique.
On va venir vous sensibiliser au véganisme.
Et vous dire comment lutter. Surtout, ce qui nous dérangeait énormément, c'est que des gens qui venaient pour nous apprendre à comment lutter, des gens qui ne connaissaient rien de la réalité locale. Et nous, avec l'OUV, on s'est dit, on fait confiance aux personnes, il faut être sur un territoire, il faut être impliqué dans les luttes, connaître les luttes dans un territoire pour savoir quelle stratégie mettre en place dans notre militantisme antispéciste. Parce que ce qui fait sens en Amazonie ne fait pas forcément sens à Rio, qui ne fait pas forcément sens dans une communauté de paysans sans terre à l'intérieur du Nord-Est, par exemple. Et nous, très tôt, notre vision était très claire, c'était non, on veut juste connecter ces personnes qui se sentent isolées, on va produire du matériel didactique, on fait des formations politiques entre nous, on va être en soutien à ces collectifs qui existent déjà ou qui se sont formés depuis, mais on fait confiance à ces personnes pour choisir les stratégies de lutte antispéciste qui font sens sur leur territoire. On a une charte de principes, donc cette première rencontre nationale en 2019, à la fin de la rencontre, on a écrit collectivement notre charte de principes, qu'on appelle la charte de Recife, parce que ça a été écrit à Recife. Donc un collectif qui veut se joindre à l'OUV doit lire la charte et tout le monde doit être en accord avec ça. Mais une fois qu'on dit on est d'accord avec la charte de principes, ensuite les actions, ça sert de guide. Mais les actions, c'est les gens sont indépendantes. Ensuite, les personnes sont indépendantes pour faire les actions. Et dans notre charte de principes, par exemple, on reconnaît que la lutte antispéciste, on peut la ranger sous un parapluie beaucoup plus ample qui comprend toutes les autres luttes Et on s'engage aussi à ne pas reproduire du racisme, du sexisme, de la LGBT-phobie dans nos pratiques antispécistes, dans la construction de la lutte antispéciste. On est anticapitaliste, ça aussi c'est sur notre charte. Donc il n'y a aucun collectif qui va venir avec un discours, les grandes compagnies, Nestlé va sauver les animaux. Enfin, on est clairement anticapitaliste. Ça sert un peu de filtre, donc les collectifs qui viennent vers nous sont des collectifs anticapitalistes, antiracistes, féministes, donc c'est vraiment incroyable de voir ensuite ce qu'ils et elles peuvent mettre en place. Donc l'année dernière, j'étais au Brésil, encore une fois, pour faire une deuxième tournée, donc 4 ans plus tard, 4 ans après la création de Louvre, j'ai fait encore une grande tournée politique pour rencontrer cette fois les collectifs qui ont été formés. Et j'étais extrêmement inspirée de voir mais la créativité, la diversité d'actions et surtout les alliances et les ponts qu'on a créés avec le MST, le MTST, dans toutes les villes où j'étais. J'étais reçue par le MST, dans le centre du MST. Une fois, j'étais reçue par le MTST, donc le mouvement de travailleurs sans toit. Et je pense que c'est important de le dire, c'est pas des personnes antispécistes, mais c'est des personnes qui comprennent, c'est pas des mouvements antispécistes, mais c'est des mouvements qui comprennent que pour l'instant, on a un ennemi commun. Donc le capitalisme et l'élevage, l'exploitation animale, c'est un ennemi et on peut faire front et avancer ensemble jusqu'à un certain point. Évidemment, notre horizon politique est antispéciste, le leur, pas forcément. Mais dans cette marche ensemble, on va dire, depuis qu'on s'est mis ensemble et qu'on a commencé à marcher, c'est vraiment touchant de voir que des personnes à l'intérieur de ce mouvement sont devenues antispécistes aussi.
En luttant à vos côtés, en fait.
Exactement. Et en comprenant les connexions. Mais en ne jouant pas ces mouvements pour les rendre antispécistes. Le but n'est pas de véganiser ces personnes.
Vous dites aussi, votre approche, elle est vraiment très particulière et très intéressante. Vous dites que le but, c'est pas de venir déconstruire des pensées spécistes, mais en fait de construire des alternatives concrètes et locales.
Tout à fait. Je pense que je suis un peu, des fois, agacée, fatiguée par le discours de la déconstruction. Il faut se déconstruire. Oui, c'est important. Mais ensuite, on construit quoi à la place ? Et je pense qu'on passe beaucoup plus de temps, la plupart du temps, on passe plus de temps à discuter de ce qu'il faut déconstruire. Ok, mais qu'est-ce qu'on va construire à la place ? Et si on n'a pas une vision de ce qu'on veut construire, on n'arrive pas à avancer. Ça nous démotive aussi, parce qu'on se bat pourquoi ? On est anti-spéciste, anti-capitaliste, anti-raciste, anti-colonial, oui, mais on est pourquoi ? Et c'est ça, l'intersection entre notre lutte et le MST ou le MTST, ou même la lutte des peuples indigènes. On a aussi fait des choses avec un mouvement super bien qui s'appelle Teia dos Povos, la toile des peuples, qui est une alliance indigène qui l'embole et populaire, qui parle de l'autonomie sur les territoires démarqués, par exemple, qui a une approche très anarchisante, on pourrait dire. Et en fait, on comprend que l'intersection, c'est ça, on veut construire un monde sans domination. Malheureusement, pour la plupart de ces personnes, c'est sans domination entre humains-humaines. Mais je pense que déjà, si on se met d'accord sur ça, on aura mis les bases nécessaires, les bases matérielles nécessaires pour ensuite construire un monde antispéciste. Si on prend l'exemple du MST, par exemple, qui n'est pas antispéciste, la plupart des paysans sans terre plantent. Il y a très peu d'élevage. Il y en a, mais c'est vraiment au Brésil, c'est flagrant. Il y a les grands éleveurs qui produisent de la viande et puis les paysans et les paysannes plantent.
D'accord, il n'y a pas toute une couche de petits éleveurs
Des fois, ils élèvent, mais pour leur consommation propre. Après, il y a certains endroits au Brésil où le MST a des coopératives de lait. Mais tu ne vas pas trouver dans les magasins des sans-terre, parce qu'ils ont des sortes de grands magasins dans les villes, de la viande sans-terre. Ça n'existe pas. Du poulet élevé par des paysans sans-terre. Non. D'accord. Tu vas dans les magasins sans-terre, tu vas trouver du végétal. Parfois du lait de ces quelques coopératives dans le sud, dans ma région, même pas. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent, le MST ? Une réforme agraire populaire. Donc, les paysans auront accès à la terre, ils vont pouvoir planter leur nourriture. J'ai dit tout à l'heure qu'au Brésil, on a 60% de la population qui est en situation d'insécurité alimentaire. Si on n'arrive pas à changer ça, comment on pourrait s'attendre à ce que les gens deviennent antispécistes ? Si on ne peut pas choisir ce qu'on mange, on n'a pas accès à la nourriture. Donc, le MST n'est pas antispéciste, mais il se bat pour un monde où les bases matérielles pour construire la lutte antispéciste seront là. Parce que pour l'instant, on n'a rien. On n'a rien.
À créer les conditions de rendre possible un monde antispéciste.
Créer les conditions matérielles pour que les personnes puissent arrêter d'être spécistes ou arrêter d'exploiter des animaux. Donc on est très clair là-dessus, on comprend, donc on peut avancer ensemble pour construire ça. Ensuite, plus tard, on aura des débats entre nous, c'est sûr, parce que nos visions ne sont pas identiques. Mais jusque-là, on a un travail énorme à faire ensemble. Démanteler le capitalisme, détruire l'exploitation animale au Brésil au niveau industriel. Donc on a cette tâche gigantesque ensemble que nous, en tant qu'antispécistes, on n'arrivera pas seul. On n'arrivera pas seul. Donc c'est trop beau de voir comme il y a 4 ans, quand on a créé Louvre, il n'y avait pas encore ce pont avec le MST, par exemple. Là, de plus en plus. Le mois dernier, le MST a fait un énorme marché, le marché annuel du MST à São Paulo, dans la ville de São Paulo, pendant toute une semaine où des producteurs, productrices rurales sont venus, sont allés à São Paulo pour vendre leurs produits. Et c'est vraiment immense. Je pense qu'ils ont vendu en une semaine 500 tonnes d'aliments dans un marché. C'est vraiment un truc super bien. Et les personnes du MST m'ont contacté pour parler à la radio du MST. Ils ont une radio pour parler de la lutte antispéciste. Donc, alors qu'avant, on devait aller toquer à leur porte et dire « mais vous voulez pas faire des choses ensemble ?» Maintenant, on arrive à un point où, même si c'est pas encore dans leur charte, l'antispécisme, ils reconnaissent l'importance et sont vraiment ouverts à faire des choses avec nous. C'est vraiment, là, c'est un exemple macro. Je peux donner un exemple micro. Donc, les BSP, les Brigades de Solidarité Populaire, le collectif dont je fais partie, qui est un collectif...
Donc, à Aubervilliers,
à Aubervilliers,
en France.
Voilà, Aubervilliers-Pantin. Il y a aussi des BSP à Montreuil, mais moi, je fais partie du groupe, et à Paris aussi, du groupe BSP Aubervilliers-Pantin. Quand je suis arrivée dans ce collectif, il y a 2 ans et demi, 3 ans presque, l'antispécisme n'était pas un sujet. Par contre, on se positionnait, on se disait toujours anti-domination, contre toutes les dominations, contre toutes les dominations. J'ai attendu quand même un petit moment.
Sans jamais parler de spécisme.
Sans jamais parler d'antispécisme. Et puis, je pense que ça faisait déjà 1 an et demi qu'on existait et on était en train de faire une banderole pour une manif. Nous sommes contre toutes sortes de dominations. Et j'ai dit, c'est pas vrai. Vous êtes contre toutes sortes de dominations, sauf la domination de l'humain sur le non-humain. Et rien que d'exister en tant qu'antispéciste dans un collectif, dans un groupe politique, déjà, ça fait... Les gens se posent des questions, ça rend les gens un peu gênés. En fait, ça gêne. Et cette gêne, des fois, ça peut aussi ouvrir des conversations. Mais je ne suis pas du tout arrivée dans le groupe en me disant, encore une fois, je vais vous véganiser, et ce n'est pas de l'antrisme vegan. Donc, on a commencé à avoir des discussions sur ça, c'est vrai, c'est vrai. Au bout de 2 ans de collectif, on a écrit notre charte. Et même si toutes les personnes qui font partie de la BSP Aubert-Pantin, toutes les personnes ne sont pas antispécistes, même si on est plusieurs maintenant, on a réussi à mettre l'antispécisme sur notre charte. Donc par exemple, dans toutes nos actions, si c'est de la distribution alimentaire, si on fait des repas, c'est toujours du végétal. Donc au moins ça, et je pense que déjà pour les personnes qui construisent d'autres luttes, qui militent dans d'autres collectifs, si on arrivait juste à avoir ce consensus-là, nos espaces de lutte doivent être antispécistes, de la même façon que nos espaces de lutte, on tolère pas le racisme, on tolère pas la parole sexiste, des actions LGBTophobes. Ok, au niveau individuel, parce que l'antispécisme, c'est pas un truc individuel, c'est systémique, donc c'est une lutte systémique, il faut changer le système. Si on arrivait déjà à juste se mettre d'accord pour que nos espaces de lutte soient toujours antispécistes, ici on ne tolère pas nos squats, nos luttes, nos collectifs, nos réunions, nos actions... Je pense que c'est une énorme avancée, même si au niveau personnel, quand les personnes rentrent chez elles et chez eux, ok, t'es pas encore prête, même si, je pense que c'est une excuse un peu pas très...
Les conditions matérielles, disons, sont déjà plus remplies en France
tout
par
à
rapport
fait.
Au Brésil pour être vegan facilement, disons.
Ici, en France, il y a quasiment... Qui ne peut pas avoir une alimentation végétale ? En France. Et je sais, moi je viens d'un quartier populaire, je sais à quel point je vis dans un quartier populaire ici, à quel point les fruits et légumes peuvent être plus chers. Mais quand je suis retournée en France fin 2019, j'ai vécu presque 2 ans dans une énorme cité, dans le 93, où il y avait une épicerie en bas et un Franprix en face. Mais juste l'épicerie en bas, mais j'ai arrivé à trouver absolument tout dont j'avais besoin. Des lentilles, des pois chiches, du riz, des légumes frais, tout ce dont on a besoin pour avoir une alimentation végétale variée et complète, et vraiment pas plus cher que si j'avais si j'achetais de la viande ou du fromage. Je pense que les gens ont encore cette idée que pour être végane, il faut des produits transformés, et c'est là où ça devient cher. Mais bon, je suis brésilienne, j'ai grandi avec des haricots et du riz, je sais ce que c'est la nourriture végétale. Pour nous, la nourriture végétale est la nourriture du prolétariat, c'est la nourriture du paysan, de la paysanne, c'est tout ce qui est transformé qui est cher. Mais bon, oui, donc pour retourner à l'exemple de comment on joint une lutte qui n'est pas antispéciste ou un groupe qui n'est pas antispéciste, et petit à petit ça peut faire bouger les consciences, je pense que c'est ça le chemin. Donc rester enfermé juste dans des collectifs antispécistes ou dans des organisations antispécistes, on ne va pas avancer assez vite.
Et une des façons, j'ai l'impression que vous avez dans chacun de vos combats, à la fois au Brésil et ici en France, dans les brigades de solidarité populaire, c'est beaucoup les cuisines solidaires ou les cantines véganes en fait, sans forcément arriver avec un discours de gros sabots antispécistes, juste par la nourriture, par l'alimentation, se placer en soutien. Aussi, c'est tout un travail de care qui est absolument nécessaire pour tout travail militant. C'est en fait de pouvoir manger pendant les actions. Et donc, il y a forcément des gens qui sont en charge de la nourriture. Et vous êtes placé en fait de cette façon-là, à la fois au sein de Louvre, par exemple, pour soutenir d'autres mouvements, comme vous l'avez dit, et d'autres luttes au Brésil. Et ben, vous participiez à faire la nourriture en fait, et du coup à cuisiner vegan, même en utilisant les produits des paysans sans terre et à valoriser leur propre culture végétale.
C'est ça, parce que quand on ne valorise pas le végétal, on ne valorise pas la personne qui a planté le végétal. Et ça, c'est quelque chose qui a eu un énorme impact sur les personnes du MST quand on a commencé à parler de ça. Mais oui, donc tu disais cuisiner, c'est du care, mais pour moi, ça va encore plus loin, c'est de la santé communautaire. Donc par exemple, à Aubervilliers, quand on fait des distribs alimentaires, on sait déjà que les populations, les classes populaires dans la banlieue ne mangent pas assez de fruits et légumes. Quand on décide de faire des distribs alimentaires avec des fruits et légumes, c'est aussi pour penser à la santé communautaire. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a un collectif lié à Louvre, dans ma ville d'ailleurs, à Natal, qui fait de la distrib alimentaire pour les personnes qui sont à la rue, c'est toujours végétal. C'est un collectif de femmes, c'est un collectif féministe aussi. Elles ont reçu énormément de critiques de la part des gens qui disaient « Oui, mais juste parce que les personnes sont à la rue, tu leur imposes ton véganisme, les personnes qui sont à la rue veulent de la viande. » Et c'est le même discours que j'entends ici, les classes populaires veulent de la viande. Les classes populaires mangent déjà trop de viande, de la mauvaise viande, de la viande ultra transformée. Non, les classes populaires ont besoin de plus de fruits et légumes frais. Et donc là-bas, c'était la même chose. Et
en fait, on vous accusait de paternalisme.
Oui, d'élitisme presque. Vous avez votre régime vegan, c'est pas un régime, hein, le véganisme. Vous avez votre régime vegan, mais vous pouvez pas l'imposer aux gens, parce que les gens qui sont à la rue n'ont jamais accès à de la viande, donc elles veulent
ça. Ce qui peut être une vraie critique, non, de choisir pour les personnes qui sont à la rue et qui ont peu de moyens ce qu'elles vont manger. Il peut y avoir un fond de vérité.
Oui, mais du coup, quand les personnes font des distribs alimentaires avec de la viande, elles sont en train de choisir aussi.
Complètement.
Tout le monde est en train de choisir, mais tu choisis basé sur quoi ? Il y a Paulo Freire, ce pédagogue brésilien que j'adore et qui inspire énormément notre lutte. C'est un des penseurs de l'éducation populaire qu'on utilise aussi ici dans les actions. Il disait toujours, tout le monde a une idéologie. C'est, tu vois, quand on accuse quelqu'un d'avoir une idéologie, tout le monde a une idéologie. La question est, ton idéologie, c'est pour l'émancipation collective ou c'est pour enlever des droits aux personnes? Mais oui, quand on fait des distribs alimentaires avec de la viande, on est en train de choisir. Et donc, ce que s'est passé, c'est qu'à chaque fois que je suis à Natal, je vais à ces distribs aussi pour aider le collectif. Et un jour, on était là en train de distribuer. Pour nous, c'était important, j'ai dit pour nous parce que j'étais là dès le début du collectif, de faire des repas qui non seulement étaient d'origine végétale, mais qui respectaient notre culture alimentaire. Ça, c'est quelque chose de très important pour Louvre et tous les collectifs qui font partie de Louvre, justement pour sortir de cette imposition au colonialisme. Qu'est-ce qui fait sens? Qu'est-ce qu'on mange dans notre région? Donc, quand on fait des distribs de petit-déj. Le matin, on mange normalement du couscous de maïs, parce qu'on a beaucoup de maïs, on mange du manioc cuit, on mange de la patate douce cuite, on fait les recettes traditionnelles de chez nous. Et il y a toujours des fruits frais qu'on distribue aussi, et du café, parce qu'on adore le café, et des jus. Et un jour, on était là en train de distribuer, et moi, j'organisais la queue. tu vois, parce qu'il y a une énorme queue. Il n'y a pas que les personnes qui sont à la rue, il y a les personnes des occupations aussi, des occupations urbaines qui viennent. Et j'ai entendu deux femmes discuter. Il y en a une qui a dit à l'autre, « Ah, mais c'est vraiment la meilleure distrib qu'on a à la rue, n'est-ce pas ?» Et l'autre a dit, « Mais oui, elle nous donne des fruits. » Et tu vois, paternaliste, c'est imaginer que les gens qui sont à la rue veulent manger de la mauvaise viande. Franchement, de se mettre à leur place et de dire, c'est ça le vrai paternalisme. Et on choisit pas, on offre. On choisit pas à la place des personnes. On n'est pas en train de suivre ces personnes nuit et jour et dire ce qu'elles peuvent manger, ce qu'elles peuvent pas manger. Ça, c'est le colonialisme qui fait avec nous, qui nous dicte qu'il faut du lait concentré sucré Nestlé dans tous nos desserts. Non, on offre une fois par semaine, le samedi, on propose un repas équilibré, végétal et qui respecte notre culture alimentaire. Et franchement, ça fait 2 ans et demi que ce collectif fait ses distribs, on n'a jamais eu une seule réclamation. Donc c'est une critique qu'on peut entendre, mais qui ne reflète pas la réalité. Et surtout, c'est des personnes qui sont pas sur le terrain. C'est drôle parce que ce genre de critique, c'est les activistes, justement, les gens qui sont derrière leur écran à nous critiquer, mais qui ne sont pas forcément ou quasiment jamais sur le terrain. Parce que si t'étais sur le terrain en contact avec les gens, t'allais savoir à quel point ça fait pas sens. Et pour nous, de Louvre, le militantisme antispéciste doit être un militantisme de base. On doit être à la base, on doit être avec les personnes. On peut pas juste militer sur les réseaux sociaux, on peut pas juste militer... ça veut pas dire qu'on fait pas ça aussi. Donc on a une présence sur les réseaux, on a aussi un groupe de travail qui suit les politiques qui sont pour les droits des animaux, on a une partie maintenant du collectif fondateur, des personnes qui ont fondé Louvre, qui suit le gouvernement de Lula justement dans toutes les politiques, parce que pour la première fois on a une ouverture, on est parti de Bolsonaro, le génocidaire, qui est aussi avec son projet de nécropolitique et l'élevage à fond et le bétail dans l'Amazonie, à Lula.
Donc il a été élu en 2022. C'est, en français, c'est Lula, si les gens n'entendent pas la différence, peut-être qu'ils reconnaîtront plus. Et donc c'est quelqu'un qui est à gauche et du côté, en fait, plutôt contre la déforestation, du côté des peuples indigènes, du bon côté par rapport à Bolsonaro pour la plupart des sujets.
Oui, un discours, bah, ça oui, et surtout pour la réforme agraire, donc le MST aussi, il est très proche du MST. Par rapport à Bolsonaro, c'est le jour et la nuit. Après, oui, c'est une version de Lula très conciliatrice qu'on a eue. Donc, il va avoir un discours très pour les peuples indigènes le matin. Et puis, l'après-midi, il va rencontrer les patrons de l'agrobusiness. Donc, c'est un peu... Il essaye de plaire à tout le monde. Mais bon, on est là. On l'a soutenu pour...
Il faut dire qu'il a reçu, en fait, une délégation de Louvre avant les élections, c'est ça ?
Avant les élections, l'année dernière, en mars, quand il était en train de préparer son projet politique, son programme politique, il faut dire que le PT, son parti, le Parti des Travailleurs, a une section droits des animaux, qui est assez récente. Et la personne, la directrice de cette section, la personne en charge de cette section, a organisé un meeting avec Lula et 20 personnes qui représentaient des groupes ou des organisations, des associations des droits des animaux au Brésil. Et Louvre a été invitée. Et donc moi, je suis allée représenter Louvre et les 40 collectifs. Donc c'était en mars de l'année dernière, oui c'est ça, mars 2022. Et c'était drôle parce qu'on était 20 et chaque personne avait 5 minutes pour faire une proposition qui avait un rapport avec les droits des animaux, que ensuite Lula allait choisir parmi nos propositions ce qu'il allait incorporer à son programme politique. Et c'est la première fois de l'histoire où un candidat à la présidence rencontre des personnes antispécistes pour nous écouter. C'était difficile de choisir une seule demande parce que... Mais je vais te dire ce qu'on a demandé parce que je pense que c'est très... révélateur de la façon dont on construit notre militantisme au Brésil, avec Louvre en tout cas. Donc on s'est dit, on peut demander qu'une chose, comment on va faire, il y a tellement de choses à faire. Au Brésil, pendant son premier mandat, Lula, parce qu'il a été déjà, ça c'est la troisième fois qu'il est élu, hein. Donc pendant son premier mandat, il avait mis en place des politiques pour acheter des végétaux produits par les paysans sans terre, dans les communautés sans terre. Là, ils ont des terres, donc c'est peut-être confus si je continue de dire sans terre, mais les paysans qui étaient sans terre et qui ont été installés sur des terres et qui produisent beaucoup dans le système agroécologique. Ça, c'est vraiment c'est extrêmement important pour le MST. La transition de système que Yale veulent mettre en place, c'est non seulement de la réforme agraire populaire, mais aussi de l'agroécologie, qui est incroyable. Donc on achète les fruits et légumes produits par les paysans dans ces communautés-là, et c'est cette nourriture-là qui va dans la cantine scolaire. Donc là, aujourd'hui au Brésil, c'est 30% de la nourriture qui se trouve dans les cantines scolaires doit venir des petites exploitations agricoles, ce qu'on appelle l'agriculture familiale.
D'accord.
Donc c'est Lula qui a mis ça en place, et c'était incroyable.
C'est tout nouveau et c'était sur votre proposition?
Non, ça c'était son premier mandat. Donc
d'accord.
C'est lui tout seul qui a fait ça. Enfin, pas tout seul, évidemment, avec beaucoup de pression de la population et des mouvements sociaux.
Mm-hmm.
Mais 30% de l'alimentation dans les cantines au Brésil doit venir de l'agriculture familiale. Surtout des sans terre. Et
d'accord.
Des quilomboles aussi, parce que c'est ça l'agriculture familiale. Donc, très bien. Bolsonaro, évidemment, n'a pas respecté ça. Et après, c'est le Brésil, comme il y a des États, c'est les gouverneurs, les gouverneuses ensuite qui peuvent mettre en place les maires de chaque ville qui va faire ou pas. Enfin, c'était pas toujours respecté. Avec Bolsonaro, c'était quasiment jamais respecté. Avec le Covid, c'était une catastrophe. Et nous, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut demander à Lula? Et là, on a dit, écoute, l'agriculture familiale au Brésil, donc les paysans sans terre et les quilomboles produisent du végétal. Et si on demandait l'inversion? Parce que maintenant, c'est 30% vient de l'agriculture familiale, 70% vient de l'agro-industrie. Et l'agro-industrie, c'est de la viande transformée, c'est du lait, c'est des produits, surtout d'origine animale. Donc, sans demander un repas vegan, on n'a pas dit « on va demander un repas végétal à la cantine ».
Oui, vous n'avez pas fait comme on peut faire en France, une option végétarienne,
voilà.
Ou alors une alternative
vegan. Ce qui
vegan.
Est valable aussi, mais
oui.
On a dit qu'est-ce qui aura le plus d'impact qu'est-ce qui aura le plus de sens dans notre contexte.
Et par rapport à son propre projet politique.
À lui, exactement. Mais aussi, on s'est dit non seulement s'il y a 70% de l'alimentation à la cantine qui vient de l'agriculture familiale, non seulement on réduit de façon mais considérable l'exploitation animale, parce qu'il y aura beaucoup moins de produits d'origine animale, mais en plus, on va donner accès à ces enfants auront accès à de la bonne nourriture, parce que les enfants qui mangent à la cantine au Brésil, c'est les enfants qui ne peuvent pas faire autrement, et qui vont pas forcément manger des fruits et légumes à la maison. Donc on va améliorer aussi l'alimentation de ces enfants, mais en même temps, on va rendre l'agriculture familiale encore plus forte, et on envoie un message très clair et très puissant aux paysans sans terre.
De solidarité.
De solidarité, et de dire on est là pour défendre les animaux, mais pas que. Regarde, si on défend les animaux, dans ce processus de droit des animaux, on peut aussi défendre vos intérêts à vous. Donc il y a une convergence d'intérêts, et c'était extrêmement puissant. Et on pouvait rêver, on nous avait donné 5 minutes, donc on a dit pour les cantines, et pourquoi ne pas faire cette loi aussi pour les hôpitaux. Tous les restaurants populaires, au Brésil, on a un truc qui s'appelle restaurant populaire, c'est dans chaque ville qui a plus de 100 000 ou 200 000 habitants, il faut des restaurants populaires, c'est la mairie qui tient ces restaurants, et ça coûte vraiment très très peu cher le repas, et c'est des travailleurs et des travailleuses qui mangent, et tous les jours, il y a des centaines de milliers de travailleurs et travailleuses qui mangent dans ces restos. Donc on a dit, pourquoi ne pas mettre ça aussi, 70% de tout ce qu'on mange dans les restaurants populaires, dans les hôpitaux, dans les prisons. Nous, on veut fermer les prisons, mais tant qu'il y a des prisons, dans les prisons, qui viennent de l'agriculture familiale. Donc, c'est des végétaux qui ont été produits sans pesticides. Et imagine la différence que ça allait faire pour tout le monde. Bon, ça n'a pas été...
C'était ma prochaine question, du coup, maintenant que Lula a été élu et qu'il est au pouvoir, est-ce que ça a été adopté?
On savait que c'était trop... On savait que c'était trop gros pour être accepté, mais c'est ça aussi le jeu. On demande beaucoup pour avoir... Si on commence déjà avec une demande raisonnable, on va sortir avec rien. Donc non, il n'a pas accepté ça, il n'a pas intégré... Mais il a créé le ministère de la réforme agraire. Et ça n'existait pas avant. Le ministère de la réforme agraire, qui est maintenant en charge de faire ça. Il a aussi créé le ministère des Affaires indigènes, qui n'existait pas. Et il a réouvert le Conseil national d'alimentation et sécurité alimentaire au Brésil, qui avait été fermé par Bolsonaro le premier jour, son premier jour de gouvernement. C'était la première chose qu'il a fait. C'était fermer le Conseil national de sécurité alimentaire. Ce qui a entraîné évidemment des années plus tard à ce qu'on soit de retour sur le planisphère de la faim. Donc c'était le début de cette politique de faim aussi.
D'accord.
Et Lula a réouvert ça. Et grâce à nos liens avec le secteur de droit des animaux du PT, maintenant on peut suivre ce conseil de sécurité alimentaire et nutritionnelle au Brésil. Et on peut accompagner toutes les politiques qui se mettent en place et évidemment avancer le projet antispéciste qui est aussi le projet des paysans sans terre. Donc ça n'a pas été accepté, mais il y a plein de portes qui se sont ouvertes. Et nous, on est là. Parce que je tenais à dire ça parce que j'ai dit tout à l'heure que notre militantisme est de base. Oui, mais pas que. On le fait à tous les niveaux.
En fait, un antispécisme décolonial, comme on l'a vu tout à l'heure, mais là, vous me le dites aussi, un antispécisme populaire.
Tout à fait. Et c'est comme ça qu'on appelle d'ailleurs la branche de véganisme qu'on défend au Brésil, c'est du véganisme populaire. Comme de la même façon qu'on parle de réforme agraire populaire, donc c'est un projet porté par le peuple, ça nous a inspiré à appeler notre véganisme véganisme populaire. C'était à la même époque où on a créé Louvre, en 2018, où on était tellement déçus et tristes du mot véganisme, ou de ce que le mouvement vegan était devenu, qu'on se demandait même si on allait toujours utiliser ce mot. Est-ce qu'on garde ce mot parce que maintenant tu te dis vegan? On était arrivé à un point où on avait presque honte de se dire vegan parce que tout de suite les gens allaient nous associer à une certaine élite très dépolitisée aussi qui voulait manger du végétal ou soit pour des raisons de santé mais aussi des fois vraiment pour des raisons antispécistes mais qui portaient un antispécisme complètement fermé. Et qui rêvait d'un monde sans spécisme, mais avec toutes les autres dominations intactes. Hein. Donc on va dépasser le spécisme, mais bon, le capitalisme, le racisme... Pff. Donc on se demandait si on allait toujours s'appeler vegan. Et après on s'est dit, mais enfin, oui, c'est pour moi, le véganisme a toujours été un mouvement politique. Ces personnes ont qu'à arrêter d'utiliser vegan et se dire plant-based, parce que d'ailleurs, il y a beaucoup au Brésil, il y en a beaucoup qui utilisent plutôt plant-based. Même en France, j'ai entendu des gens se dire « Ah, moi, je suis plant-based, ok. » Bon, bah voilà. Moi, je reste vegan, mais par contre, on a ajouté un adjectif, donc populaire, parce que pour nous, le véganisme populaire, c'est un projet qui est porté par le peuple. Évidemment, le but, c'est l'émancipation animale, mais qui est porté par le peuple, pas par les organisations des droits des animaux, antispécistes, pas par les grandes organisations internationales qui étaient arrivées chez nous. Non, on construit de bas vers le haut, donc de la base vers le haut. Et on fait une distinction entre véganisme et antispécisme aussi.
C'est-à-dire ?
L'antispécisme, c'est notre horizon politique. Donc le spécisme étant la suprématie humaine, la domination de l'humain sur le reste de l'humain, c'est notre idéologie politique, on va dire. Nous, on se bat pour sortir de cette domination. C'est ça, être antispéciste. Et c'est pour ça que pour moi, je ne peux pas envisager une personne antispéciste qui soit raciste, ou qui soit machiste, ou qui soit homophobe. Je ne comprends pas comment on peut être contre une sorte de domination et pas les autres. Mais j'ai le même problème avec les gens qui sont qui n'incorporent pas à la lutte antispéciste à leur lutte antidomination. Donc ça, c'est le spécisme. Donc si l'antispécisme est notre horizon politique, c'est vers ça qu'on veut aller, un monde sans domination animale, le véganisme, pour nous, c'est la pratique. C'est la mise en pratique de cette lutte. Donc, comment on arrive à un monde antispéciste? Il faut passer par des pratiques antispécistes qu'on peut appeler véganisme. Mais on peut remplacer véganisme par pratique antispéciste, si on veut.
Du coup, ça veut aussi dire que, selon vous, les pratiques ne sont pas forcément les mêmes en fonction du contexte. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas une définition fixe de ce qu'est le véganisme. Les mêmes pratiques peuvent être véganes dans un pays et pas véganes dans l'autre. C'est pas pareil d'être végane en France, par exemple, que d'être végane au Brésil, c'est ça?
J'avais jamais pensé à ça, mais oui, je pense qu'on peut le dire comme ça. Pour moi, ça reste quand même, on peut pas se dire vegan et manger des animaux, donc il y a quand même des choses qui ne changent pas. Mais oui, la façon de pratiquer, je dirais plutôt que c'est pas le véganisme qui change, mais c'est la façon de pratiquer le véganisme.
D'accord.
Qui va changer, qui va prendre des formes différentes selon le territoire, l'endroit où tu es. Donc peut-être qu'ici, ça fait sens, je suis pas tout à fait convaincue, mais peut-être qu'ici, ça fait sens de demander plus de produits transformés végétaux avec le label vegan. Chez nous, ça fait pas du tout sens.
Au Brésil, donc.
Oui.
Et ici, par exemple, manger des produits végétaux qui sont considérés donc comme vegan, mais qui en fait viennent de très loin, viennent du Brésil et peut-être s'intègrent dans le système agroalimentaire brésilien, est-ce que c'est vegan?
C'est une très bonne question et je remarque ça de plus en plus, des aliments qui sont d'origine végétale, donc on pourrait qualifier de vegan. Mais comme j'ai dit tout à l'heure que pour moi le véganisme c'est une pratique, pour moi c'est une pratique de solidarité politique envers les autres espèces, c'est ça le véganisme pour moi. Déjà je ne considère pas qu'il y a des produits vegan, les personnes sont vegan, les produits sont d'origine végétale. Donc je trouve que ça dépolitise énormément la lutte si on transforme véganisme en label ou vegan en label, qu'on achète en plus, qu'on achète et qu'on met sur des produits transformés faits par des grandes compagnies. D'un côté, ça dépolitise la lutte, mais d'un autre côté aussi, je trouve que ça peut repousser des personnes. Je me souviens, il y a quelques années, une amie française m'a donné un chocolat avec du lait de coco, et c'était un chocolat végétal, et elle m'a dit « Ah tiens, j'ai acheté ce chocolat vegan, j'ai goûté, mais j'aime pas le chocolat vegan. » Et je dis « Mais ce chocolat, il est au coco. » Non, non, il est vegan, je t'assure, regarde, il y a le label et tout. Je dis, oui, mais bon, t'aimes pas le chocolat au coco. C'est pas que tu manges pas un mauvais chocolat avec du lait de vache et tu te dis, j'aime pas le chocolat pas vegan. Tu dis, j'aime pas ce chocolat. Et donc, quand tu transformes le mot vegan en étiquette que tu colles sur les choses, tu dépolitises et c'est tellement plus facile pour les personnes qui ont des pratiques spécistes de rejeter le véganisme en disant, j'aime pas la nourriture vegan. Mais il n'y a pas de nourriture vegan. Il y a des personnes véganes, il y a de la nourriture végétale. T'aimes pas quoi? T'aimes pas la noix de coco? T'aimes pas le maniac? Ok. T'aimes pas le maïs? T'aimes pas le pois chiche? Ok. Mais tu peux pas dire j'aime pas la cuisine ou j'aime pas la nourriture végane. Donc non, je considère que le véganisme est une pratique de solidarité politique envers les autres espèces et du coup, effectivement, selon l'endroit où tu es, cette pratique va prendre des formes différentes selon aussi la manifestation de spécisme dans dans ta région. On a beaucoup réfléchi avec le collectif Antispé 93, donc je fais aussi partie d'un collectif antispéciste dans le 93, de c'est quoi les stratégies ici antispécistes. Et donc on a commencé à réfléchir plutôt à ce que se passe au Brésil avec Louvre et tous les collectifs et toutes nos alliances avec les paysans et les paysannes, et on s'est demandé si c'était possible de transposer ça ici. Est-ce qu'on peut aussi faire ce genre d'alliance? Et on a compris que ça allait pas forcément marcher ici. Donc c'est les pratiques, le véganisme reste le même, on est toujours en solidarité politique avec les animaux, les autres animaux, mais quelle forme ça va prendre ici? Et c'est pour ça, je sais que j'ai déjà dit ça, mais je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus. C'est pour ça que ces organisations des droits des animaux vegan qui ont des stratégies globales qui sont juste répétées un peu partout, ça peut pas marcher. Peut pas marcher. Je me souviens il y a quelques années d'un activiste donc d'une grande ONG ici en Europe qui est allé au Brésil pour faire une formation d'activisme vegan, et une de mes amies est allée à la formation et elle est allée vraiment elle était pas du tout en accord avec sa vision, mais elle voulait, ok, je vais lui donner une chance, je vais lui poser des questions. Et à la fin de son discours, là, de sa formation, elle a demandé, mais vous pensez que ici au Brésil, avec le lobby du bétail et puis la déforestation, blablabla, est-ce que ça fait sens ici? Et lui, il a répondu, ah, je pourrais pas te dire, en fait, je connais pas du tout la situation ici. Comment tu peux aller au Brésil former des militantes, des activistes plutôt véganes, sans connaître la situation du pays? Ça, c'est du colonialisme. Et regarde, on peut aussi reproduire des pratiques coloniales, même quand on est végane, comme on peut manger des choses qui participent à la colonisation tout en étant végane.
Comme quoi, par exemple, en France?
En ce moment, il y a vraiment un... Tu vois, les superfoods. Tu vois, t'as toujours ce truc de tous les ans, on découvre un aliment qui est un super aliment avec plus d'antioxydants que tous les autres aliments du monde ensemble. Et malheureusement pour nous, au Brésil, il y a quelques années, on a découvert une petite baie de la forêt amazonienne qui s'appelle açaí, que les gens prononcent mal ici, qui disent açaï, mais c'est açaï. L'açaï, c'est la base de l'alimentation des peuples indigènes. C'est très populaire au Brésil, tout le monde mange ça, mais c'est surtout la base, l'aliment de base. Et effectivement, c'est une petite baie qui est extrêmement riche en antioxydants. C'est pour ça que ces peuples arrivent des fois à se nourrir que de ça et de manioc et à survivre. Mais bon, c'est un super aliment. On a commencé à importer ça et je vois des açaï bowls dans les cafés vegan ou pas vegan, hein, pas forcément. Un peu partout en France, quand j'habitais à Berlin aussi, je voyais partout. Et ce que se passe maintenant avec l'açaï, c'est un peu ce que s'est passé avec le quinoa il y a quelques années, où le monde a découvert le quinoa, tout le monde achetait le quinoa de Bolivie et qui était un aliment de base. Et le prix a augmenté là-bas, les prix, et du coup les personnes du pays n'arrivaient plus à avoir accès à ce quinoa. C'est exactement la même chose. Non, sauf que là, c'est vraiment c'est doublement pervers, parce que d'un côté, maintenant que l'Europe et les États-Unis veulent acheter notre açaï, Donc tout part à l'exportation, pas tout, mais une grosse partie commence à être exportée. Donc le prix augmente sur place parce qu'il y en a moins, donc plus c'est rare, plus c'est cher. Et on voit des personnes ici vraiment hipster, bobo, enfin les classes moyennes, élevées, vegan, manger ça. Prendre ça, c'est pas assez de prendre la terre des peuples indigènes. On va prendre même son aliment à lui et à elle, manger ça ici. Mais d'un autre côté, parce qu'il y a de plus en plus de personnes ici qui veulent acheter de l'açaï, on voit de la forêt qui commence à être aussi détruite pour faire des monocultures d'açaï. Alors que l'açaï est un palmier, c'est un grand palmier qui a toujours été récolté de façon... très écologique. C'est les peuples indigènes qui vont le cueillir à l'intérieur de la forêt de façon vraiment écologique. Maintenant, on est en train de tout casser, de tout détruire pour planter, pour faire de la monoculture. Ça a toujours été un polyculture, de la monoculture d'açaï, parce que l'Europe et les États-Unis veulent manger l'aliment de base de la culture alimentaire indigène. Donc on peut être vegan et avoir des pratiques coloniales aussi.
Et tant qu'on parle du lien qui peut parfois exister entre véganisme et colonialisme, et la nécessité, à l'inverse, de défendre un antispécisme décolonial, Sandra Guimaraes a voulu dire quelques mots à propos de ce qui se passe ces dernières semaines en Palestine. Et comme on avait enregistré cet entretien il y a plusieurs mois, avant les actualités récentes, elle m'a envoyé un vocal depuis le Brésil, qui est vraiment le prolongement de tout ce qu'elle a dit dans l'épisode.
On est le 25 novembre 2023 et pendant les dernières 7 semaines, la violence du projet colonial israélien a atteint des niveaux jamais vus. Ce que l'État d'Israël est en train de faire à Gaza réunit toutes les conditions pour être qualifié de génocide. J'ai voulu parler de ça parce que les politiques coloniales d'Israël nous montrent, une fois de plus, comment le spécisme sert à justifier la domination des populations racisées et colonisées. Quand le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, dit « Nous combattons des animaux humains et nous agissons en conséquence », c'est pas difficile de voir où ça mène. Sorti le peuple palestinien du groupe humain en les qualifiant d'animaux, dans un monde spéciste, ça veut dire que toute violence envers ce peuple sera tolérée. Animalisé pour rendre tuable, comme l'a très bien dit Kauta Arshi. Et pendant ce temps, des personnes véganes israéliennes utilisent le véganisme pour renforcer la narrative raciste de la soi-disante supériorité morale des personnes israéliennes par rapport aux personnes palestiniennes. Un exemple de ça, c'est l'initiative « Véganisme sur le front », menée par une des plus grandes organisations véganes israéliennes, qui envoie des repas véganes aux soldats qui sont en train d'attaquer Gaza. Le fondateur de cette organisation explique que « nous devons nourrir les soldats véganes pour que ces héros de la nation puissent accomplir leur mission vitale ». Cette même organisation poste sur leurs réseaux sociaux des vidéos de soldats israéliens à Gaza, après l'invasion terrestre, où on le voit donner de l'eau à des canards, tout en expliquant que « l'armée israélienne s'occupe des animaux qu'elle rencontre, contrairement au Hamas ». Cette stratégie s'appelle « vegan washing », c'est-à-dire instrumentaliser la cause animale pour donner une image progressiste et éthique d'Israël, tout en décrivant les Palestiniens et les Palestiniennes comme des personnes violentes et barbares. Mais on a aussi vu apparaître des groupes véganes de solidarité à la Palestine. J'ai été invitée par une amie palestinienne à faire partie d'un de ces groupes, « Vegans for Palestine », et j'aimerais finir avec les mots du collectif. Nous sommes un collectif de véganes de plusieurs pays et nous sommes solidaires à la lutte pour la libération de la Palestine. Sous la colonisation israélienne, tout souffre, les personnes, les animaux non humains et l'environnement. Aucun endroit n'est sûr pour aucun être tant que l'occupation se poursuit. Nous ne devons pas permettre que le greenwashing et le veganwashing de l'occupation militaire et de l'apartheid nous détournent de la réalité. Rejoignez-nous. Ensemble, nous défendrons la justice pour tous. Palestine libre.
Si jamais, on avait déjà parlé dans le podcast de ce qu'est le vegan washing. Dans l'épisode 3 avec Jérôme Segal, si vous voulez le réécouter. Je vous laisse en description les liens qui montrent le vegan washing dont parle Sandra Guimaraes et aussi le lien vers la page Instagram du groupe Vegans for Palestine, que je vous encourage à suivre. Dans la prochaine et dernière partie de cet entretien, mon invité parle d'une autre lutte dans laquelle elle a été impliquée, la défense des jardins ouvriers d'Aubervilliers. Elle parle aussi de la nécessité de cultiver la joie dans nos luttes et de comment le faire. Et elle nous donne plein de recommandations passionnantes pour aller plus loin. Allez, bisous.